VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Pour la première fois de son histoire, l'Argentine accueille les chefs des plus grandes puissances du monde lors du G20 demain, vendredi et samedi, alors même que le pays vit son pire moment économique depuis la crise de 2001. Plus de 20 000 membres des forces de sécurité sont déployés en prévision des manifestations anti-G20. Le président américain Donald Trump est attendu ce soir à Buenos Aires, où il doit prendre part au sommet. Donald Trump suivra de peu dans la capitale argentine son homologue chinois Xi Jinping, avec lequel il a prévu de s'entretenir pour tenter d'enrayer l'escalade de représailles douanières entre les deux pays qui menacent la croissance économique mondiale. L'incertitude demeure en revanche sur une rencontre bilatérale entre Donald Trump et Vladimir Poutine, dont l'arrivée est prévue demain. Ici aux États-Unis, très remonté depuis le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, les parlementaires américains ont adressé un coup de semonce à l'administration Donald Trump, une résolution pour cesser tout soutien militaire à Riyad dans la guerre au Yémen a franchi hier un premier obstacle au Sénat. Dans l'après-midi, 63 sénateurs républicains et démocrates contre 37 ont donné leur feu vert à un débat sur la résolution bipartisane. Cette large majorité ne préjuge pas du vote final sur le texte qui pourrait n'intervenir que la semaine prochaine, mais donne déjà une idée du malaise des élus américains. En Afghanistan, un attentat à la voiture piégée suivi d'un échange de tirs revendiqué par les talibans a fait 10 morts et 19 blessés. L'attaque visait une compagnie de sécurité privée britannique installée dans l'est de Kaboul. Irénée Emmanungo.
Un porte-parole du ministère Nasrat Raimi n'a pas communiqué sur la nationalité des victimes, avertissant que le bilan pourrait encore s'aggraver. Selon la police, une voiture piégée a explosé à proximité des locaux de la compagnie G4S. Juste après, il y a eu échange de tirs. G4S a confirmé depuis Londres un incident contre une de ses installations à Kaboul. La compagnie emploie 611 000 personnes dans une centaine de pays. L'attentat a été revendiqué par les talibans dans un message sur Twitter par leur porte-parole, Zabouillah Moudjahid. L'opération a commencé par l'enlèvement de tous les obstacles par un camion piégé et l'ouverture du chemin à de nombreux martyrs. Cette attaque survient le jour où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les talibans et le gouvernement afghan à entamer des pourparlers de paix directe. Lors d'une réunion sur l'Afghanistan à Genève, le président afghan a annoncé la constitution d'une équipe de négociation de 12 personnes. Il a aussi indiqué qu'une feuille de route pour les négociations de paix a déjà été établie.
Sur le continent, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui était hospitalisé en Arabie Saoudite, est arrivé ce matin tôt à Rabat au Maroc pour un séjour de convalescence et rééducation en milieu hospitalier. Le chef de l'État gabonais âgé de 59 ans avait quitté mercredi soir l'Arabie Saoudite où il était hospitalisé depuis le 24 octobre. Aucune image n'a été pour l'instant diffusée à son départ ni à son arrivée vers 5h GMT à Rabat, selon une source diplomatique rapportée par l'agence française de presse. Au moins un garde a été tué mercredi dans des affrontements dans le parc des Virunga, réserve naturelle située en zone de conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Deux civils ont également été tués, selon des sources locales. À l'origine de la violence, l'organisme gestionnaire du parc, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, parle d'une attaque menée par des miliciens d'un groupe armé nombreux dans cette province du Nord Kivu. Les sources locales affirment, au contraire, que des habitants manifestaient devant le siège de l'ICCN contre une mesure prise à leur encontre. Toujours en République démocratique du Congo, pour la quatrième journée consécutive, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a annoncé que ses services seront fermés au public aujourd'hui pour raisons de sécurité, et ce, à un mois de l'élection présidentielle. John Lindon.
L'ambassade des États-Unis à Kinshasa restera fermée au public aujourd'hui, jeudi 29 novembre, en raison des informations dites crédibles et précises sur une menace terroriste ciblant les installations américaines à Kinshasa. C'est ce qu'on peut lire sur le site internet de la représentation américaine. Les États-Unis encouragent fortement les citoyens américains vivant à Kinshasa et sur toute l'étendue de la RDC à maintenir un niveau accru de vigilance. Lundi, les autorités congolaises ont qualifié de psychose inutile l'alerte donnée dimanche par l'ambassade américaine sur une éventuelle menace terroriste. Elle avait conduit à sa fermeture au public et les alentours de l'ambassade étaient bouclés par les forces de sécurité. Washington a déjà appelé à des élections crédibles en RDC et la campagne a déjà commencé.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, 3 étudiants ont été blessés mercredi soir à Boaké, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire, lors d'un affrontement avec des gardes pénitentiaires. L'affrontement a duré 2 heures mercredi, entre 20h et 22h locales, et GMT opposant une centaine d'étudiants à une vingtaine de gardes pénitentiaires qui ont tiré à plusieurs reprises d'après des témoins cités par l'AFP. Au troisième jour de sa comparution dans le procès du putsch raté de 2015 au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a mis en cause les chefs de l'armée qui ont témoigné contre lui devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Gilbert Diendéré a estimé que toute la hiérarchie militaire était impliquée dans le coup d'État, comme l'ancien chef d'état-major général, le général Pengrenoma Zagré, et le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le colonel-major Alassane Moni. Les djihadistes de Boko Haram ont tué 3 soldats dans l'attaque d'une base militaire près du lac Tchad dans le nord-est du Nigeria, où les militaires ont été mis en déroute par les insurgés qui multiplient les opérations selon des sources civiles et militaires ce jeudi. Des combattants du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, une faction de Boko Haram affiliée à l'organisation de l'État islamique, sont arrivés mardi à bord de plusieurs camions et ont attaqué la base militaire du village de Kroskowa dans l'État du Borno. Et toujours au Nigeria, 3e semaine de grève des enseignants dans les universités du pays. Notre correspondant Gilbert Tamba s'est rendu à l'université d'Abuja pour constater les effets de cette grève.
Les activités académiques sont à l'arrêt ici à l'université d'Abuja comme dans les autres à travers le pays. Et c'est là depuis que la coordination nationale des enseignants d'université du Nigeria a lancé son mot d'ordre de grève le 5 novembre. La grève est très suivie. Ici, pas de cours. Le personnel d'enseignants est absent et les classes sont vides. Godwin Ekimar est étudiant en 3e année de sociologie.
Cette grève affecte nos programmes académiques et nos examens. Vous savez aussi que lorsque vous restez longtemps à l'école, cela augmente votre âge. Donc parfois, si le gouvernement parle de limite d'âge, il a une part de responsabilité.
L'université d'Abuja compte plus de 60 000 étudiants et est perçue comme l'une des meilleures institutions d'enseignement supérieur au Nigeria. Depuis des années, la grève a désorganisé le système d'enseignement supérieur du pays. Le calendrier académique est très irrégulier du fait de grèves successives. Wina Moro est en 5e année de médecine.
J'accuse d'abord le gouvernement qui ne respecte pas les accords qu'il a signés avec Assou. Il donne son accord et après, il revient sur sa décision pour dire non. Ensuite, j'accuse le syndicat des enseignants qui va en grève juste pour certains bénéfices.
Le pays compte 90 universités publiques, dont 43 universités fédérales et 47 universités d'État. Les enseignants dénoncent, entre autres, le manque d'investissement dans l'enseignement supérieur au Nigeria, qui impacte négativement la qualité d'enseignement. En plus, de nombreux projets sont inachevés. C'est le cas de la faculté d'agronomie en construction sur ce campus depuis quelques années. Cette grève, lancée le 5 novembre par Assou, l'intersyndicale des enseignants d'université, est la dernière d'une série d'actions menées par le syndicat ces dernières années. Le professeur Biodun Okunyemi est son président.
Nous sommes en grève parce que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Depuis 2009, nous avons signé un accord avec le gouvernement pour voir comment on pouvait repositionner les universités publiques nigérianes en vue d'une reconnaissance internationale. Nous avons discuté de la possibilité d'obtenir des fonds nécessaires pour nos besoins.
Contrairement à la NLC, la puissante centrale syndicale des travailleurs du Nigeria, qui a suspendu son mot d'ordre de grève après un accord avec l'État il y a 2 semaines, les enseignants d'université et sont toujours à la table de négociation avec le gouvernement fédéral. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Et le gouvernement gambien a ordonné hier la relance de l'instruction judiciaire à l'encontre de 5 policiers accusés du meurtre de 3 jeunes manifestants au cours d'un rassemblement anti-pollution suivant les recommandations d'une commission d'enquête instaurée par le président Adama Barrow. Les policiers avaient tiré à balles réelles sur des manifestants en tuant 2 et en blessant 5. Un troisième manifestant a ensuite succombé à ses blessures. 16 policiers avaient par ailleurs été blessés. Fin de ce journal, le prochain dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.